Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur l'action de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, d'autant que le Conseil de sécurité a voté à l'unanimité le renouvellement pour un an de la MONUSCO, mais les effectifs de la plus importante mission de l'ONU dans le monde passent d'une capacité maximale, tenez-vous bien, de 19 800 militaires et policiers à 16 200. Alors cette réduction du nombre de casques bleus est-elle justifiée? Vos réactions évidemment nous intéresse, d'autant que des violences secouent en ce moment les provinces du Kassai et que le pays, vous le savez, doit organiser d'ici la fin de l'année des élections. Est-ce le bon moment pour réduire les effectifs des casques bleus? Quel bilan d'ailleurs dressez-vous de l'action de la MONUSCO? Cela fait maintenant 18 ans que les casques bleus sont déployés en République démocratique du Congo. Vous qui êtes sur place, appelez-nous, témoignez, dites-nous si les casques bleus ont contribué tout de même à stabiliser votre pays. Vous nous appelez donc au 09 693 693 70 09 693 693 70, si vous nous appelez de France, et vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux. Des commentaires acerbes concernant la MONUSCO. Bienvenue nous dit le bilan de la MONUSCO est totalement négatif. Où sont les casques bleus alors que la population au Kassai se fait massacrer? Mushigo, toujours sur Facebook, affirme que la MONUSCO a échoué sur le terrain. Il n'y a pas de résultat tangible. La présence des casques bleus n'empêche pas les massacres. On en parlera donc dans une trentaine de minutes ensemble. Mais d'abord, vous le savez, à cette heure-ci, nous commençons l'émission avec vos questions à la rédaction. C'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes d'RFI. Vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Eladji, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Juan. Bonjour à tous les auditeurs d'RFI.
Vous avez des questions sur les affrontements dans l'est de la Syrie?
Oui, la situation en Syrie, vous savez, M. Rouhan, depuis plusieurs jours, il y a un affrontement entre le rebelle kurdo-arabe et l'État islamique autour de Baraz de Tabqa. Ma première question, M. Rouhan, quelle est la situation sur place? Parce que c'est très flou. Et deuxième question, M. Rouhan, quel est le point stratégique du barrage de Tabqa?
Oui, le plus grand barrage de Syrie qui menace d'ailleurs de s'effondrer. La vie de milliers de personnes est potentiellement en danger. Bonjour Daniel Vallaud.
Oui, bonjour.
Journaliste au service international d'RFI. Alors ce barrage est contrôlé par les djihadistes et il est au cœur, comme le disait à l'instant notre auditeur, d'affrontements qui opposent l'organisation État islamique aux combattants kurdes et arabes qui sont eux soutenus par la coalition internationale. De quelles informations disposez-vous, Daniel Vallaud? Quelle est la situation sur le terrain?
Alors écoutez, il semblerait que depuis quelques jours on assiste à une relative accalmie sur le barrage lui-même. Ces derniers jours, les combats, les affrontements se sont concentrés non plus sur le barrage en tant que tel, mais à quelques kilomètres de là, sur des localités situées à l'est de Tabqa. Depuis la semaine dernière, les positions n'ont quasiment pas évolué sur le barrage. Les combattants de l'organisation de l'État islamique continuent d'en contrôler la majeure partie. Quant aux combattants kurdes et arabes qui forment la coalition au sol emmenée par les États-Unis contre l'État islamique, eh bien, il reste positionné sur le versant nord du barrage, sachant que ce barrage est d'une longueur tout de même de plusieurs kilomètres.
Ouais, en tout cas, visiblement, Daniel Vallaud, les systèmes de contrôle du barrage ne fonctionnent plus.
Oui, alors attention, parce que nous ne disposons malheureusement que d'informations parcellaires et très difficiles à confirmer en ce qui concerne l'état du barrage lui-même. L'édifice lui-même, la structure, ne semble pas avoir souffert des affrontements et des bombardements, mais en effet, des installations électriques et de commandes du barrage ont été endommagées, c'est une certitude. La semaine dernière, un cessez-le-feu de plusieurs heures a d'ailleurs été instauré pour qu'une équipe d'ingénieurs et de techniciens puisse effectuer des réparations. L'objectif, bien sûr, étant d'éviter que les eaux accumulées en amont du barrage finissent par le submerger.
Alors, Eladji nous demandait quel était l'aspect stratégique de ce barrage. Je le disais tout à l'heure, c'est le plus grand barrage de Syrie.
Oui, et il se trouve à un endroit très important, puisqu'il est à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Raqqa, et donc, en s'en emparant, eh bien, la coalition anti-État islamique pourrait poursuivre, parfaire l'encerclement des djihadistes dans cette ville de Raqqa, qui est la prochaine cible en Syrie hein, de la coalition anti-État islamique. Ensuite, bien entendu, vous l'avez dit, il s'agit du plus grand barrage du pays. Donc, il a une importance absolument fondamentale en matière de production d'électricité et d'accès à l'eau potable. Et puis, il a aussi une importance symbolique. Il faut en parler, car ce barrage, il a été construit dans les années 70 par Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, l'actuel président syrien. Et il constitue le grand accomplissement en matière d'infrastructure du régime syrien, un petit peu comme le barrage d'Aswan pour l'Égypte de Nasser.
Et puis, il y a bien entendu le risque de voir ce barrage céder en raison des affrontements.
Voilà, évidemment, c'est un risque absolument majeur parce que c'est une zone immense qui serait inondée en aval de ce barrage, avec un risque pour les dizaines de milliers d'habitants qui se trouvent dans la zone, à Raqqa mais aussi à Deir ez-Zor. Les conséquences humanitaires seraient absolument catastrophiques, ont prévenu les Nations Unies il y a quelques semaines dans un communiqué lorsque les combats ont débuté dans cette zone. Alors ce risque, il existe sans doute, mais pour le moment, il semble avoir été quelque peu instrumentalisé, voire même exagéré par les belligérants pour servir leur communication. Il y a eu ce point d'orgue il y a 10 jours environ lorsque l'organisation de l'État islamique a poussé durant plusieurs heures les habitants de Raqqa à fuir la ville en leur expliquant que le barrage allait céder d'un instant à l'autre. C'était une fausse alerte, mais qui a suscité tout de même une véritable panique au sein de la population. L'organisation de l'État islamique avait alors accusé l'armée américaine d'avoir bombardé le barrage et donc d'avoir provoqué son effondrement partiel, ce qui était inexact. Un mot de la position de l'armée américaine aujourd'hui en ce qui concerne le barrage. Cette position, c'est de dire premièrement qu'il est hors de question d'endommager et deuxièmement que de toute façon les forces kurdes contrôlent au nord du barrage un déversoir qui permettrait d'évacuer le trop-plein d'eau si le niveau de ces eaux menaçait de submerger le barrage.
Ouais, et si le barrage se brise, entre 12 et 14 milliards de mètres cubes d'eau pourraient alors se déverser, entraînant, vous le disiez à l'instant, Daniel Valo, des dégâts considérables. Eladji, on a répondu à vos questions ?
Oui, vraiment, avec satisfaction. Je vous remercie très bien.
Et on vous souhaite une bonne journée.
Je vous souhaite une très bonne journée.
Merci à vous et on remercie surtout à Daniel Valou qui nous a éclairé sur la situation dans ce barrage à l'est de la Syrie. Merci Daniel d'avoir été avec nous. 10h18 à Paris, vos questions 33 9 693 693 70. Marie-Pierre Olfan, journaliste au service Afrique des RFI, nous rejoint. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Des questions sur l'Uranium Gate, cette affaire qui défrait la chronique au Niger. Ali Baro nous appelle de Dosso, justement, au Niger. Bonjour Ali Baro.
Bonjour, Anne. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons.
Niger, la commission d'enquête parlementaire chargée d'enquêter sur l'Uranium Gate a commencé à effectuer ses auditions la semaine dernière.
Oui.
Première question, le ministre des Finances, Assoum Massaoudou, sera entendu par cette commission. Première question, que risque-t-il ?
Ah, que risque le ministre des Finances, qui est accusé, il faut le dire par une partie de la presse, d'avoir effectivement détourné des sommes d'argent lors d'une transaction d'uranium en 2011. Marie-Pierre Olfan, c'est une affaire complexe, hein, il faut le dire, qu'a révélé la presse nigérienne. Il s'agit en fait d'un système de vente circulaire d'uranium entre l'entreprise française Areva et le Niger via des sociétés russes et libanaises, ce qui complique évidemment après la compréhension véritable de tout ce dossier. En tout cas, il semblerait que certaines transactions soit douteuses. D'ailleurs, elles font l'objet en France de l'ouverture d'une enquête du parquet national financier. Alors, contrairement à ce que disait Ali Baro à l'instant, la commission d'enquête parlementaire mise en place en Niger, elle a terminé totalement ses auditions. C'est-à-dire que ça a démarré, je crois, en début de semaine dernière et ça s'est terminé vendredi.
Oui, les auditions ont duré une semaine, pas plus.
Oui.
Hein,
et donc, ça signifie que le ministre des Finances a déjà été entendu.
Exactement. Assoumi Massoudou a été entendu il y a une semaine, mardi dernier. Mais il faut bien comprendre comprendre hein, qu'il ne risque rien à ce stade, parce que la commission parlementaire n'a pas vocation à juger, tout simplement. Elle peut bien sûr émettre des conclusions à la fin de son enquête, faire des propositions, susciter un débat à l'Assemblée, mais rien de plus. Pour que les personnes citées dans ce dossier par la presse nigérienne soient jugées, il faudrait que la justice soit saisie du dossier et qu'elle aille au terme de la procédure pour qu'il y ait un jour peut-être un procès.
Ce qui n'est pas exclu.
Effectivement, parce que depuis vendredi, on le sait depuis peu, une cinquantaine d'organisations ont déposé plainte contre X auprès du doyen des juges d'instruction de Niamey. Une plainte pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs, faux et usage de faux. Donc une fois que le doyen des juges qui a reçu cette plainte va fixer la caution que doivent payer les organisations qui se sont portées partie civile, l'information judiciaire sera automatiquement lancée. Et si cette procédure va à son terme, car elle peut s'arrêter à n'importe quel moment, alors les personnalités dont on parle seront à nouveau interrogées et peut-être jugées. Mais pour l'heure, il faut le rappeler que tous ceux dont on parle et dont les noms sont sortis dans la presse sont présumés innocents.
Effectivement. Ali Barrault, vous avez une autre question?
Oui, la deuxième question. Donc, qui sont les autres personnalités qui seront auditionnées par la commission d'enquête et pour quel motif?
Alors, les autres personnalités auditionnées la semaine dernière, Marie-Pierre.
Donc déjà auditionnées, il y a le directeur de la Sopamine, l'ex-directeur d'abord de la Sopamine, la société nigérienne qui a été au cœur de cette vente circulaire d'uranium. Il s'appelle Ama Amadou, ce n'est pas l'opposant hein, qui porte le même nom, mais cet ex-directeur de la Sopamine. Il a délégué ses pouvoirs à Assoumi Massaoudou dans cette affaire. Il n'a donc pas directement géré le dossier, mais en tant que directeur de l'époque, il sait forcément des choses et c'est pour ça qu'il a intéressé les parlementaires. Il y a eu aussi l'audition du directeur actuel de la Sopamine, Hamazada, et également celle du rédacteur en chef du journal Le Courrier et de l'événement, les journaux qui ont rendu public l'affaire mi-février, donc au Niger. Il faut préciser maintenant que la commission d'enquête a maximum 45 jours pour écrire son rapport, mais si elle ne le fait pas vite, c'est possible qu'elle ne le fasse jamais hein, et qu'on ne sache peut-être jamais ce qu'ont donné ces auditions, parce que si une information judiciaire est ouverte dans les prochains jours, eh bien le travail des parlementaires devra s'arrêter là, car il ne peut pas y avoir deux enquêtes en parallèle, c'est la loi qui le dit.
Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Marie-Pierre d'être venue répondre à Ali Barrault, qui nous appelait de Dosso au Niger. Des questions maintenant concernant la crise politique au Venezuela. Marthe, bonjour.
Oui, bonjour messieurs, bonjour à tout le monde.
Bienvenue sur notre antenne, vous nous appelez de Chalon-sur-Saône.
C'est ça. J'ai été surprise d'entendre samedi dernier que le tribunal suprême de justice était revenu sur ses décisions. D'abord de supprimer l'immunité parlementaire des députés de l'opposition, et la deuxième, c'était d'assumer les pouvoirs de l'Assemblée. J'aurais voulu savoir quelles étaient les raisons de ce recul et s'il y avait des réactions de l'opposition.
Et quel revirement de la Cour suprême. Bonjour Paola Vasquez-Lesama.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du Venezuela, chargé de recherche au CNRS. Comme le disait Marthe à l'instant, samedi, la Cour suprême a annulé une décision qu'elle avait pourtant elle-même prise quelques jours plus tôt, celle de s'octroyer les pouvoirs du Parlement. D'abord, expliquez-nous en quelques mots, juste pour nous rafraîchir la mémoire, pourquoi la Cour suprême a-t-elle cherché à s'accaparer la prérogative du Parlement ?
Non, en fait, ce n'est pas correct. La Cour suprême n'est pas revenue sur les faits, sur la sentence d'annuler, d'une part, l'immunité parlementaire des députés. Ça, il faut le comprendre. Elle est revenue uniquement sur les faits d'octroyer au président Maduro tous les pouvoirs. Mais la notion d'outrage continue en vigueur. D'outrage, en fait, c'est l'accusation contre l'Assemblée nationale où les députés d'opposition ont une majorité depuis décembre 2015. Et cette accusation d'outrage vient du fait qu'il y a trois députés issus des minorités ethniques de l'État d'Amazonas que le gouvernement de Maduro met en cause leur légitimité à partir d'une accusation de fraude qui n'a jamais été prouvée. Donc, mais tout ça, c'est une excuse juridique pour annuler l'Assemblée nationale qui est en main de l'opposition. C'est-à-dire, c'est un long parcours. Ça fait deux ans que toutes les lois émises par l'Assemblée nationale et elles sont annulées par le tribunal suprême de justice. Il y a 56 sentences déjà contre l'Assemblée nationale et sa légitimité. Donc les mobilisations de l'opposition sont maintenues pour aujourd'hui pour répondre à la question de Martha. Et depuis samedi, il y a de nombreux députés qui ont été arrêtés, frappés, tabassés, même suivis par les services des renseignements et de la police.
Paola Vasquez-Lessama, est-ce que l'opposition a raison d'accuser la Cour suprême de commettre un coup d'État ?
Oui, en effet, c'est un coup d'État en compte-gouttes, hein, c'est-à-dire ça date. Ça fait 2 ans qu'on vit dans cette position dans laquelle on met en cause la souveraineté de l'Assemblée nationale. Donc c'est un pas de plus, hein, c'est pas une nouveauté, voilà ce que je veux dire. Et les députés vénézuéliens, c'est un pas de plus, et les députés vénézuéliens, donc en ce moment même, ne bénéficient pas d'immunité parlementaire. Elle n'a pas été rétablie. Pourquoi ?
D'accord.
Mais surtout, il faut comprendre, pour revenir à la première question de la cause, c'est que ce qu'on comprend en fait, et qui est assez grave, c'est qu'il y a un conflit entre les parquets et les magistrats. Les parquets représentés par Luis Ortega Díaz, et les magistrats, c'est les magistrats Michael Moreno. Ils répondent à des tendances opposées au sein du chavisme, qui est au pouvoir. L'extrême serait celle des magistrats, représentée surtout par Diosdado Cabello. Et le parquet, ça fait un moment qu'il est en désobéissance de l'exécutif, parce que les derniers prisonniers politiques ont été jugés dans des tribunaux militaires et pas civils. Pourquoi ? Parce que les parquets refusent de faire partie de ces accusations complètement, de ces procès complètement illégaux et arbitraires. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les manifestations des rues sont maintenues. Et
il y aura certainement beaucoup de monde, comme à chaque fois d'ailleurs, dans les rues de Caracas. Marthe, est-ce que vous comprenez un peu mieux la situation qui est compliquée, effectivement, au Venezuela ?
Oui, très compliqué et longue à résoudre, surtout.
Bon, en tout cas, merci de votre fidélité. Merci de nous écouter à Chalon-sur-Saône. Et on remercie évidemment Paola Vasquez-Lessama, spécialiste du Venezuela. Léa Lisa Vesteroff du service Afrique d'RFI est avec nous. Bonjour Léa Lisa.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Des questions qui nous arrivent au standard après la mort de 2 experts de l'ONU en République démocratique du Congo. Bonjour Rousseau.
Bonjour Juan et bonjour Léa Lisa.
Alors, on va tendre l'oreille, le réseau n'est pas très bon. Vous nous appelez de Matadi, en RDC.
Ok. Les 2 corps des experts de l'ONU, disparus le 12 mars, ont été retrouvés près des Kananga dans les Kasaï centrales. Et quels éléments que le gouvernement attribue cette barbarie aux miliciens Kamuina Nsapu?
Alors, les miliciens Kamuina Nsapu, dans le collimateur des autorités congolaises, Léa Lisa Vesteroff, c'est la première fois qu'une telle attaque touche des experts indépendants de l'ONU en République démocratique du Congo. Rappelons que les corps de l'Américain Michael Sharp et de la Suédoise Saïda Catalan ont été retrouvés en début de semaine dernière au Kasaï central. Pourquoi ces miliciens sont-ils dans le collimateur des autorités ?
Eh bien en fait, les autorités les ont désignés dans un premier temps, hein, puisque le principal élément, c'est celui du mode opératoire. Du fait que l'une des victimes a été égorgée, eh bien le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, avait affirmé qu'il pourrait s'agir de membres de cette milice qui ont perpétré cet assassinat, car les Kamuina Nsapu ont en effet ces derniers mois à plusieurs reprises égorgé des membres des forces de l'ordre, des policiers notamment. Mais c'est à peu près le seul point commun avec les crimes commis par les adeptes de ce chef coutumier, car un tel assassinat, vous le disiez, est inédit. Jamais les Kamuina Nsapu se sont attaqués aux étrangers, encore moins à une femme pour laquelle il y a normalement un grand respect dans cette région. Qui d'autre pourrait donc vouloir s'en prendre à ces experts ? C'est toute la question, impossible d'y répondre dans l'immédiat. L'enquête vient juste de démarrer, mais l'ONG La Voix des Sans-Voix au Congo a rappelé l'importance d'explorer d'autres pistes. Elle a évoqué aussi la possibilité d'une opération de représailles de personnes qui auraient commis des violations des droits de l'homme et qui se seraient inquiétées de la présence de ces enquêteurs internationaux, puisque je le rappelle, le mandat de ces experts était justement d'enquêter sur de possibles violations des droits de l'homme, un rôle stratégique puisqu'au terme de la recherche, ces experts dressent une liste de personnes susceptibles d'être sanctionnées par l'ONU. Quoi qu'il en soit, je le disais, l'enquête n'en est qu'à ses débuts, à voir ce qu'elle va révéler. Il y a deux enquêtes, une de l'ONU et une menée par la justice congolaise.
Reste avec nous Léa Lisa Vesteroff, on vous garde bien au chaud dans ce studio. On va retrouver juste après le journal Rousseau qui avait d'autres questions à vous poser après la découverte macabre donc de des corps des deux experts des Nations Unies. Et dans la foulée, nous parlerons de la République démocratique du Congo et du renouvellement du mandat de la MONUSCO avec des effectifs revus à la baisse. Alors est-ce le bon moment de réduire le nombre de casques bleus en RDC? Ce sera le débat du jour. On en parlera évidemment tous ensemble juste après le journal. Restez à l'écoute des RFI.
Autour de la question.